Alors, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, rebonjour aux autres. Je vous propose comme un prolongement de la fois passée, mais si vous n'étiez pas là la fois passée, c'est pas grave. Et un prolongement, et en fait je vais lire le texte qui se situe juste avant. Et je voudrais vous proposer la lecture d'extraits du premier livre de Samuel au chapitre 2, c'est vers le début de l'Ancien Testament, 7e, 8e livre à peu près. Nous sommes à l'époque où le temple n'est pas construit, il y a un sanctuaire pour Dieu qui est là. C'est là que se trouve le coffre de l'Alliance, ce qu'on appelle l'arche habituellement. Et ce sanctuaire est sous responsabilité d'un prêtre qui s'appelle Élie, sans eux, et de deux de ses fils, qui, dit le chapitre 1, verset 3, qui y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Et dans ce contexte, on nous raconte le cheminement d'une femme, Anne, qui attend un enfant, enfin qui aimerait bien avoir un enfant, et c'est difficile. On nous raconte la naissance de cet enfant, et puis cet enfant va passer au service du sanctuaire, au service de ses prêtres. Et au chapitre 2, donc versets 11 et suivants, on va voir que le récit fait un espèce de va-et-vient. Tantôt il parle de Samuel, tantôt il parle des deux fils d'Élie, et des deux fils d'Élie qui contreviennent aux consignes qui sont données par Dieu. Je lis à partir du verset 11. Samuel fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens, qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à trois dents à la main, il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait ce sacrifice « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Et si l'offrant objectait « Mais il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. » Le serviteur lui répondait « Tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana, c'est le mari en question, et sa femme en disant « Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel, c'est-à-dire Samuel. » Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde trois fils et deux filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit « Mais pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur ? » Mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Je ne lis pas en détail la fin du chapitre, quelques extraits. Il se termine par la venue d'un homme de Dieu qui vient voir Élie et qui annonce à Élie la colère et le jugement de Dieu qui vient. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinées et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Puisqu'il en est ainsi, le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Donc je reprends des éléments du texte. Voici donc Élie, un prêtre dont les enfants, qui sont aussi des prêtres, se comportent de manière grossière, sordide. Et vraisemblablement, ils profitent de leur statut de personnage respecté, dit le texte, pour deux choses. D'une part, s'engraisser à partir des dons qui sont faits par le peuple. C'est le premier désordre dont parle le récit, et c'est le désordre dont il parle deux fois. Une fois, c'est le narrateur qui le dit, et une autre fois, c'est l'homme de Dieu qui le dit. Chapitre 2, verset 27. Donc, d'une part, il profite des offrandes, et puis d'autre part, il profite des femmes, verset 22. Et plus de 3000 ans en arrière par rapport à nous, ça pourrait ressembler à ce que dans nos actualités, on qualifie de scandale, des abus sexuels. Et en fait, on ne sait pas très bien dans le récit là ce qui se passe. Est-ce que ces femmes, est-ce que ce sont les fils d'Élie qui les ont corrompus? Ou bien est-ce que c'est le genre de commerce sexuel qui pouvait exister autour des sanctuaires païens et puis qui s'est implanté aussi autour du sanctuaire du Seigneur? Donc en tout cas, ça ne va pas. Et Élie finit par être informé de tout ça. Et il manifeste sa désapprobation à ses fils, versets 22 et 25 que j'ai lus. Il essaie de leur faire prendre conscience des enjeux, de ce qui se passe. Donc il tente bien de faire quelque chose. Et en même temps, apparemment, il n'a pas été suffisamment ferme. Et il est même apparemment un peu complice, puisqu'il a un peu profité des avantages que ses fils récupèrent. Alors aujourd'hui, c'est sans doute le deuxième élément qui choque le plus, que l'on profite de son statut, alors si c'est le cas dans le récit, pour violer un être humain, pour passer par-dessus son consentement et par-dessus son corps, pour avilir. Et on est d'autres. Déjà, c'est choquant en soi, mais c'est choquant, c'est encore plus choquant quand c'est le fait de personnes à qui on confie des responsabilités, qui ont une respectabilité, de qui on attend qu'elles soient exemplaires de par ce fait. Ou bien des personnes qui, par leur métier, sont là pour écouter des confidences, pour laisser la place à la confidence et accompagner. C'est choquant quand des psychologues finissent par coucher avec leurs patientes, par exemple. Et quand il s'agit de religieux, comme dans notre récit, alors c'est encore plus choquant. Et on s'indigne du fait même, et on s'indigne du décalage entre le discours qui est tenu et le comportement qui est vécu. Ça, c'est pour les corps. Mais le premier élément est au moins aussi important dans le récit. Il puise dans la caisse, grosso modo, il puise dans la marmite. Il taxe. Prendre ce qui est destiné à Dieu, et là encore, dans le récit, on voit qu'ils le prennent de force. Si les personnes ne sont pas d'accord, ils mettent le pied dans la porte. Alors, ce n'est pas un corps qui est forcé, et du coup, ça nous indignera peut-être moins aujourd'hui, mais c'est le même mécanisme dans les deux cas. Je force quelque chose. Je prends ce qui ne me revient pas. Alors, nous le savons, il y a au moins trois tentations auxquelles nous sommes tous exposés, chacun d'entre nous. Il n'y a pas que ça, mais bon, c'est les plus mentionnées, l'argent, le sexe, le pouvoir. Et ça fait le quotidien des affaires policières, ça fait les thèmes cinématographiques les plus communs. Alors ici, dans le texte, c'est pas l'argent, mais ça y ressemble. Le sexe, oui. Le pouvoir, eh bien, c'est probablement à cause de leur titre, de leur rôle, qu'ils exercent un certain pouvoir, qu'ils utilisent mal un certain pouvoir. Donc, en tout cas, les enfants d'Élie cochent au moins deux des cases. Voilà, ça c'était pour le pan négatif. Mais le récit fonctionne en alternance. Et l'alternance est d'autant plus frappante, du coup, avec Samuel, auquel le récit revient à plusieurs reprises. Verset 11. Le jeune homme fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Et puis, verset 18, on revient à lui et on entend que Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Verset 21, le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Et enfin, verset 26, le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Et le récit fait sentir ce contraste, et je voudrais vous rendre sensible au fait que ce contraste, on le lit assez rapidement tout ça, mais ce contraste se tisse et il va se creuser, s'accentuer au fil du temps. Et c'est cette dimension du temps qui passe à laquelle je voudrais nous rendre attentifs. En fait, elle apparaît dès le verset 18, parce que juste après avoir dit ce qu'on a lu, ce qui est projeté, l'auteur nous fait sentir ce temps qui passe, et il nous dit chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement. Donc, on se rend compte que, d'ailleurs, cette phrase, l'auteur rend compte de plusieurs visites, de plusieurs années qui se passent. Et puis, verset 21, juste avant ce qui est projeté, on entend qu'Anne met au monde 5 enfants. Donc, probablement, c'est au moins 5 ans qui viennent de se passer entre ces deux petites phrases à propos de Samuel. Donc, le temps passe et nous voyons Samuel qui évolue positivement et de plus en plus positivement. Et dans le même temps, bien les fils d'Élie évoluent dans l'autre sens, puisque au fur et à mesure que le récit avance, il ne s'agit plus seulement que de profiter matériellement de la viande qui est offerte à Dieu, mais il s'agit aussi de profiter du corps d'êtres humains. Et j'en arrive du coup à ce à quoi je voulais en arriver. C'est que du coup, avec ce temps qui passe, mais on pourrait se demander la chose suivante. Mais le temps passe, il se passe au moins 5 ans, sans doute davantage. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait être tenté de s'indigner, parce qu'apparemment, Dieu ne fait pas grand-chose. Voire même, on pourrait dire, il ne fait rien du tout. À chaque fois que je vais au sanctuaire offrir des choses à Dieu, il me taxe, là, il me saute dessus. Maintenant, il y a la prostitution, ou alors il se passe des choses, ça ne va pas. Que fait Dieu? Il laisse faire. Il semble laisser faire. Pas seulement une fois, mais au fil des années. Il profite des biens, il profite des corps. Les fils d'Élie profitent des biens, profitent des corps. Et le temps passe. Et les abus continuent. Alors on voit bien qu'Élie essaie de résister, mais Cause toujours, papa, hein? Mais que fait Dieu, bon sang, dans tout ça? Et on pourrait prendre des questions plus actuelles. Je prends un petit peu toujours les mêmes. Hein. À l'échelle internationale, devant des guerres, et devant des guerres qui durent, en Ukraine, en Israël. Mais ça, on en parle peut-être beaucoup, enfin, je ne sais pas trop bien, parce que vous savez que je ne suis pas très bien à l'actualité. Mais il y a aussi d'autres endroits, d'autres lieux qui ont moins de visibilité médiatique, où aussi il y a des choses dramatiques qui se passent. Mais que fait Dieu? Et que fait Dieu quand ses émissaires, ses représentants, ses prêtres, ses pasteurs, ces représentants qui sont si beaux, qui sont si respectables, qui sont si respectés, s'avèrent parfois si trompeurs? C'est difficile, en tout cas en Occident, je pense peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais d'être catholique aujourd'hui. Jean Vanier, l'abbé Pierre, je pense aussi aux enquêtes d'il y a quelques années, mais enfin quelques années, c'est il y a moins d'une dizaine d'années, les enquêtes de Frédéric Martel sur l'homosexualité dans le catholicisme, de Justin Tricot, qui est une enquête plus sociologique, mais qui soulève les mêmes questions, qui observe les mêmes choses sur la place de l'homosexualité chez les prêtres. Mais ça ne se limite pas, bien sûr. Alors, Martel dit la chose suivante. Martel, qui est homosexuel, d'ailleurs, lui aussi, hein, donc, mais qui est pas du tout croyant. Mais il dit ce qui le choque, lui, c'est les personnes qui condamnent l'homosexualité publiquement et qui, en privé, ne s'en privent pas. C'est là que tu dis, ça va pas. Qu'on soit homosexuel, on peut admettre, mais en même temps, enfin, c'est un double discours, ça va pas. Je parle du catholicisme, bien sûr. Ça ne se limite pas au monde catholique, c'est le plus visible. Mais je pourrais citer cet exemple d'un prédicateur évangélique australien, c'est loin peut-être, mais qui était très connu dans son pays. Des foules se pressaient pour l'entendre, et qui priait pour les malades. Voilà, c'était des stades remplis. Et chaque soir, il se voyait en train de fréquenter des lieux qui ne sont pas très aguichants pour satisfaire ses désirs homosexuels. Mais tout ça pour dire que ce sont toutes ces personnes qu'on admire, quand on les voit, quand on les entend prêcher, qui parlent bien, qui ont, on dit, mais lui, il a l'onction, qui ont un ministère, entre guillemets, et on a confiance, et on se laisse parfois envoûter, si je puis dire, impressionner. Et la difficulté là, c'est qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. C'est ça là qui va pas. Et du coup, le chrétien pourra dire, mais tout ça, c'est sordide en soi. Et que fait Dieu? Est-ce que Dieu serait d'accord? Et qu'il s'en fiche? Et on a parfois presque honte d'être chrétien. Et je crois qu'on peut bien comprendre, du coup, ce que nous dira l'athée de service. Vous savez, les amis, si Dieu n'existait pas, hein, est-ce que ce serait si différent? Et j'ai envie de dire que c'est une question dont les auteurs bibliques ne seraient pas surpris, parce qu'elle ne se pose pas qu'à notre époque. L'apôtre Pierre, c'est une question un petit peu analogue. C'est pas exactement la même question, mais il dit, depuis que le monde est monde, ben, rien n'a changé, hein. Alors, revenez me parler de cette soi-disant promesse que le Seigneur vient, que le Seigneur revient. Ce que je veux dire, c'est que ce que ce récit pose comme question, c'est la question du silence. Du silence, au moins apparent, de Dieu. Ce silence qui peut être interprété facilement comme un consentement. Alors je vais redire ce que j'ai dit d'autres fois. Qui ne dit rien consent. Et vous savez que je pense qu'il est plus juste de dire, mais qui ne dit rien ne dit rien. Mais ça fait problème quand on ne dit rien. Et on pourrait dire ici, aujourd'hui, comme pour cet épisode-là, on pourrait dire même que ça dessert Dieu. En tout cas, ça dessert la confiance qu'on pourrait avoir en lui. Et en même temps, ce silence, c'est ce qui se voit, ce qui s'entend de l'action de Dieu au fil des années ici. Un silence apparent. En tout cas, jusqu'à l'avertissement du verset 27. Un avertissement qui d'ailleurs est adressé, c'est un petit peu, c'est étrange, on peut se poser la question. C'est un avertissement qui est adressé directement à Élie. Et on peut se demander, mais est-ce que ses enfants, est-ce que Dieu s'est manifesté à ses enfants directement, ou est-ce qu'il s'adresse directement au Père? On ne sait pas. Le texte n'en dit rien. Donc il y a un certain silence apparent de Dieu jusqu'au verset 27. Et puis il y a la suite qu'on a lue la fois précédente, au chapitre 3. Là c'est Samuel, le petit Samuel, qui va dire à Élie, mais là, ce que Dieu avait dit, il va le matérialiser. Là, ça va pas, maintenant ça ne va plus durer longtemps. Et puis, si on continue la lecture au chapitre 4, on se rend compte que l'accomplissement sera raconté au chapitre 4. Une partie, en tout cas. Mais entre-temps, le temps passe, les années passent, et les méfaits continuent. Et du coup, ça nous fait revenir, je crois, ça me fait revenir, en tout cas, pour ce qui me concerne, à ce que ce récit met en valeur, justement, par le fait qu'il raconte ces deux histoires, l'histoire des fils d'Élie, l'histoire de Samuel, en simultané, en split screen, enfin un écran partagé où vous voyez une chose qui se passe et puis une autre chose qui se passe en même temps. Ça c'est la télé, on a l'image, donc on peut les mettre les deux en même temps. Dans le récit, on ne peut pas faire ça, mais je vais raconter une partie, puis l'autre partie, puis l'autre partie, puis l'autre partie. Ce que ce récit met en valeur, c'est que ces événements qui sont sordides, qui sont révoltants, se produisent en même temps que d'autres événements qui sont tout aussi réels et en même temps qui sont bien plus discrets, qui sont moins retentissants et qui sont pour le coup presque invisibles, à part pour ceux qui sont touchés directement. Et même pour eux, je ne suis pas sûr que ce soit toujours évident. En tout cas, il y a d'autres événements réels qui ne font pas la une des journaux mais qui se passent en même temps. Avant l'annonce que fera le visiteur, l'homme de Dieu, à Élie, au moment où l'on s'étonne, où on pourrait s'étonner du temps qui passe et de ne pas voir Dieu qui jugule les mauvaises actions, qui interrompt le scandale, le texte nous laisse voir que Dieu, pourtant, ne reste pas inactif. Il n'est pas là juste à regarder ce qui se passe et à se désoler. Oh, misère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore? Je ne peux pas faire grand-chose. Non, non. Dieu intervient. Et il intervient à sa façon. Il intervient avec Anne, d'abord, qui est la maman de Samuel, qui semble avoir, parce que là, il faudrait avoir lu le chapitre 1, une vie très discrète, très ordinaire. Je dis ça parce que ce qu'on apprend d'elle, c'est qu'il y a des choses qui la rendent heureuse. Elle ne manque apparemment de rien. Elle est mariée. Et en plus, si j'ose dire, son mari l'aime. Je dis ça parce que c'est pas toujours gagné, quoi. Voilà. Mais donc, là, pour le coup, c'est bien ce qui se passe. Il y en a un couple qui a de l'affection l'un pour l'autre. Donc, il y a des choses qui la rendent heureuse. Et sa vie est aussi ordinaire parce qu'il y a des choses, elle a des sujets de peine. Donc, elle ne parvient pas à avoir d'enfant. Et du coup, c'est déjà une souffrance, je pense, pour elle, mais cette souffrance est accentuée par le fait qu'elle, c'est une famille polygame, donc il y a une co-épouse, mais cette co-épouse, elle a des enfants, et plusieurs, et elle se moque d'Anne. Pour elle, il n'y a pas de difficulté à avoir des enfants, donc toi, tu n'en as pas. Alors son mari lui manifeste de l'attention, mais elle reste malheureuse en même temps. Eh bien, Anne se tourne vers Dieu, et Dieu lui donne cet enfant qu'est Samuel. Et elle en est tellement reconnaissante qu'elle confie cet enfant au service de Dieu. Et nous avons lu dans le texte que Dieu intervient pour qu'elle ait d'autres enfants. Mais j'ai envie de dire, une femme enceinte, rien ne laisse voir la signature de Dieu. Pour celui qui ne veut, croit pas en Dieu, par exemple. Je suis sûr qu'un athée a des explications tout à fait ordinaires. Et nous les connaissons, ces explications toutes biologiques, et c'est tout. Et pourtant, Et pourtant, Dieu est à l'œuvre avec Anne. Dieu est aussi à l'œuvre avec Samuel. Et là encore, d'une manière qui peut paraître extrêmement discrète, extrêmement banale, extrêmement ordinaire. On le lit, j'ai envie de dire, on le devine, on l'entend dans ces mentions de la croissance de l'enfant et devant la façon dont cet enfant croit, grandit. Il grandissait. Dans le service ordinaire, il servait Dieu, dit le texte, verset 11, en servant Élie. Et en hébreu, c'est pas dit comme ça, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais c'est il servait Dieu servant Élie. C'est comme si c'était deux formules équivalentes, comme si le fait de servir Élie, c'était le fait de servir Dieu. C'était équivalent, oui, j'ai déjà dit. On a vu au chapitre 3 qu'il le fait en ouvrant les portes du sanctuaire. Autrement dit, il grandit, il sert le prêtre, il ouvre les portes du sanctuaire, il fait des gestes ordinaires, comme nous ferions la vaisselle, si nous faisons la vaisselle, ou si, comme nous la rangerions dans la vaisselle, le ménage, l'animation d'une activité en église ou ailleurs. Mais le récit nous fait comprendre qu'au travers de tout ça, de ce qui se met en place au fil de ce temps qui passe, de ce petit vêtement que sa maman lui apporte au sanctuaire tous les ans, au travers de ce grandir, qui est le grandir de l'enfant, c'est vraisemblablement Dieu qui le fait grandir. Et qui fait que quelque chose se tisse, quelque chose se construit dans Samuel, dans les relations aussi que Samuel a, du bien se produit. Il gagne de l'assurance, il gagne de la confiance, de la relation avec Élie, avec les gens qui l'entourent. Et Dieu va se servir de tout ça, va s'en servir au chapitre suivant, lu la fois passée, pour que Élie apprenne à Samuel à écouter Dieu et pour que Samuel aussi puisse dire une parole de Dieu à Élie. Chose très, très invisible, très ordinaire. Dieu se manifeste avec Anne, avec Samuel. Et puis nous avons lu que Dieu se porte aussi au-devant d'Élie, Élie qui est dépassé par les événements. Alors ce sera une parole difficile, mais Dieu annonce qu'il va mettre un terme, après toutes ces années, à ce qui se passe. Le temps passe à son rythme, si lent ou si rapide, ça dépend, on peut vivre les mêmes choses d'une personne à l'autre. Oh, le temps passe si vite, et puis l'autre qui s'ennuie comme un remords. Voilà, mais le temps nous paraît long parfois. Parfois il nous paraît rapide. Le temps passe de manière si anonyme. Et quand le silence est là, et pire, quand le mal est là, on a envie, parfois certains d'entre nous, en tout cas, de bousculer Dieu. Et on s'interroge, peut-être, ou bien on se désole. Et ceux qui ne supportent pas l'inaction, qui ne supportent pas en vouloir faire hâter les choses, établir le royaume de Dieu sur terre à sa place, parce que finalement, il traîne un peu, quoi, Dieu. S'il le faut, c'est bon, quoi, on va y aller. Et puis d'autres vont être trop mous, trop attentistes. C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce que ce texte nous fait entendre, en tout cas, c'est que Dieu prépare l'avenir. Je reprends le verset 35 qu'on a lu tout à l'heure. « Je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. » Frères et sœurs, amis, je vous invite à entendre que cette parole est dite là 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors cette promesse, elle va se préciser, elle va se préciser de manière très forte au bout de ces 1000 ans, mais elle va se préciser dans la suite du récit biblique. Des années, des décennies après, Dieu prépare la venue d'un prêtre comme aucun autre. Et il prépare aussi la venue d'un roi comme aucun autre. La venue du prêtre, la venue du roi, la venue de Jésus. 1000 ans. C'est long, 1000 ans. Hein. Si nous sommes pris devant ce qui nous semble être le silence de Dieu aujourd'hui, et plus encore si nous sommes confrontés à la présence du mal, ce récit peut nous encourager, nous inviter à ouvrir les yeux sur l'ordinaire qui est là. Un ordinaire que nous pouvons deviner, que nous pouvons croire, investi par Dieu lui-même. Nous pouvons aussi nous révolter contre le mal. Élie le fait peut-être pas suffisamment, mais il le fait, il dénonce quand même le mal qui est là. Et nous pouvons aussi le faire. Et pour le reste, nous pouvons aussi consentir à ne pas comprendre. À ne pas comprendre que ça prenne tant de temps. À laisser à Dieu le temps de Dieu et faire preuve de patience. Et comme le disait Laurent une fois, « Seigneur, donne-moi la patience, mais vite hein. !» Oui, ben oui, oui. Mais déjà, juste à méditer la patience de Dieu. À méditer davantage, notamment quand je m'impatiente. Mesurer peut-être un peu plus, chercher à mesurer un peu plus la patience de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous et à mon égard, à moi. Je dis ça pour chacun d'entre nous. Je me dis pour moi, mais... Et à choisir, malgré l'inconfort et malgré l'inconfort durable, parfois, la patience, précisément, et la confiance. Et croire que, même si les choses n'ont pas l'air de bouger, le Dieu auquel nous croyons, qui a matérialisé sa promesse en Jésus-Christ, tiendra ses promesses envers nous aussi.